La Grosse Écoute, le podcast de référence agro. L'édito.
La filière des engrais est dans de beaux draps. Après la crise sanitaire, les fabricants de fertilisants font face à la hausse des prix, au manque de disponibilité des matières premières et aux embargos. Côté organique, la grippe aviaire a privé la filière de 200 000 tonnes de fientes de volaille en France. Les distributeurs n'emmènent pas large. Ils font des avances de trésorerie monumentales et doivent parfois demander des acomptes aux adhérents et clients. Les tarifs haussiers des céréales peuvent permettre aux cultivateurs de s'en sortir, mais les éleveurs risquent fort de faire des impasses. Mais surtout, fabricants, distributeurs et agriculteurs craignent des pénuries au printemps. Heureusement, de nouvelles sources de matières premières font leur apparition. La méthanisation et le développement de l'hydrogène vert, grâce aux énergies renouvelables, constituent des pistes pour réduire la dépendance à la Russie. Et si vous souhaitez en savoir encore plus, vous trouverez toutes les réponses à vos questions dans notre Mag Engrais 2022 qui vient tout juste de sortir.
La grosse info.
Ce sont quatre lettres qui commencent à faire parler d'elles. Alors que la sécheresse de l'été a ravivé les tensions autour de l'usage de l'eau, la REUT, ou REUT, pour réutilisation des eaux usées traitées, pourrait être une piste. Pour encourager cette pratique encore minoritaire, la Commission européenne a publié début août des lignes directrices pour favoriser son appropriation, en amont de l'entrée en vigueur en juin 2023 d'un règlement sur la réutilisation de l'eau. En France, où 0,1% des eaux usées sont réutilisées, l'idée fait aussi son chemin. Un décret a été publié en mars dernier pour définir les modalités de réutilisation des eaux usées et encadrer la mise en place d'expérimentations. Un second décret devait suivre, spécifiquement dédié au secteur agroalimentaire. Mais 6 mois plus tard, toujours rien. Dans certains couloirs, on parle même de décret fantôme. Qu'à cela ne tienne, certaines coopératives, très motivées, se mobilisent. C'est notamment le cas de la Coperle et de Vivadour, qui sollicite le guichet France Expérimentation. Ce dispositif permet de déployer des pratiques ne faisant pas encore l'objet d'une réglementation. Autre exemple, celui du Loiret, qui a lancé, fin septembre, une étude prospective à l'horizon 2070 pour cibler les secteurs de son territoire où la REUT serait appropriée. Les ressources en eau du département peinent en effet de plus en plus à subvenir à ses besoins. Les partisans de la réutilisation des eaux usées devront également lever un dernier obstacle, celui de la réticence de l'aval à transformer ou consommer des aliments produits avec ce type d'eau. Comme souvent, il faudra faire preuve de pédagogie.
L'agro s'explique.
Marianne Omnes, vous êtes spécialiste agriculture à l'ambassade des États-Unis. Vous avez organisé une conférence sur les coproduits des biocarburants aux États-Unis, au SPAS. Pour quelles raisons ?
Suite à l'été qu'on a vécu, les problèmes de sécheresse et les problèmes de grande culture et d'alimentation animale, on souhaitait aborder la question de l'alimentation animale de plusieurs points de vue. On a invité nos partenaires du Sorghum Check-Off Programme qui sont venus parler du sorgho. Et moi, je souhaitais aborder la question qui est la comparaison entre la production pour les carburant qu'on oppose à la production pour l'alimentation humaine ou animale.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus concrètement le lien entre biocarburant et élevage ?
Aux États-Unis, le biocarburant le plus utilisé et le plus produit, c'est le bioéthanol. Quand on produit du bioéthanol, on se retrouve avec des résidus, ce qu'on appelle des drèches, qui sont très intéressantes pour l'alimentation animale.
Quelle est la différence avec la France ?
Alors, on produit des drèches liées à la production de bioéthanol en France, mais on n'a pas décidé de construire un marché et une chaîne de logistique autour de ces drèches. Par exemple, aux États-Unis, on en exporte beaucoup. Il y a eu des aides de l'État à partir de 2005 pour la création de bioraffineries, pour la promotion de ces drèches comme une source d'alimentation animale, alors qu'en France, pour le moment, ça reste assez discret comme marché et c'est pas un élément qui est mis en avant quand on parle des biocarburants.
Comment voyez-vous évoluer le marché des biocarburants aux États-Unis ?
Ça va dépendre de plusieurs facteurs. Le facteur principal étant l'opposition de l'électrique face aux moteurs thermiques. Si on maintient les moteurs thermiques, je pense que la production de bioéthanol va continuer et va grandir parce que c'est une façon d'être plus conscient de l'environnement tout en gardant sa voiture, tout en gardant son matériel agricole. À l'inverse, si l'électrique est choisi par la plupart des États, ça va poser un gros problème à la production de biocarburants.
Comment est pris en compte l'enjeu climatique en agriculture aux États-Unis ?
Alors, on pourrait penser qu'il n'est pas pris en compte, ce n'est pas vrai. Par exemple, les États-Unis vont vouloir maintenir une profitabilité financière, mais tout en proposant de la technologie pour faire en sorte que leur culture s'adapte et puisse se maintenir.
L'insolite.
Qui aura-t-il dans l'assiette du premier homme à mettre le pied sur Mars ? L'un des nombreux challenges du voyage vers la planète rouge tient à l'alimentation de l'équipage. Produire de la nourriture pendant le vol et le séjour martien sera indispensable. Car, pour une mission de 1000 jours, soit de quoi envisager un aller-retour et un séjour confortable sur Mars, il faudrait 10 à 12 tonnes d'aliments pour un équipage de 6 personnes. Un volume trop important pour une navette spatiale où la place sera très limitée. Les spationautes auront donc droit à des produits frais. Mais que peut-on faire pousser dans le sol de la planète rouge ? La science est sur le coup. Dans la revue PLOS ONE, une équipe scientifique affirme avoir reproduit un sol similaire à celui de Mars en partant des analyses réalisées par les différents rovers envoyés sur place. Ces scientifiques ont déjà tenté d'y faire pousser de la laitue ou du radis, sans résultat concluant malheureusement. Mais la luzerne s'avère prometteuse, ainsi que le trèfle s'il est accompagné d'une bactérie capable de fixer l'azote pour la plante. Des pistes intéressantes pour combiner planète rouge et légumes verts.
La Grosse Écoute, le podcast de référence agro.
Si ce contenu vous a plu, merci de le faire savoir et n'hésitez pas à le partager dans vos réseaux.